7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer Michael, cette annonce de la Maison Blanche qui effraie les Nations Unies.
Ah oui, c'est vraiment ça et vous allez comprendre pourquoi. L'administration Trump a en effet réaffirmé il y a quelques jours ce que le candidat à la présidentielle américaine avait déjà dit durant la campagne, son intention de réduire de 40% la contribution des États-Unis au budget des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Intention qui provoque, vous vous en doutez, un véritable branle-bas de combat au sein de l'organisation. Bonsoir Johanna Hochstein en direct de Bruxelles.
Bonsoir Michael.
Alors vous avez rencontré précisément à Bruxelles le nouveau responsable de ces opérations onusiennes, le français Jean-Pierre Lacroix. Et quel est d'abord Johanna son degré d'inquiétude ?
Alors pour l'instant, il ne s'agit que de menaces, mais on les prend très au sérieux aux Nations Unies. Si l'administration américaine décidait de les mettre à exécution, ce serait un sacré coup dur pour l'organisation, parce que la contribution des États-Unis équivaut en fait à un tiers du budget total des opérations de maintien de la paix.
Et du coup, est-ce qu'on prend les devants à l'ONU ?
Oui, il y a une réflexion qui est menée pour réduire les coûts de ces missions, comme l'explique le nouveau chef des opérations de maintien de la paix à l'ONU, Jean-Pierre Lacroix.
Nous avons de toute façon, quoi qu'il arrive, un projet pour faire évoluer le maintien de la paix. Et ce projet, il inclut aussi la perspective, à terme rapproché, de fermer celles des opérations qui ont atteint leur objectif. L'opération en Côte d'Ivoire, l'opération en Libéria et de transformer, parfois assez profondément, les opérations qui ont besoin d'être transformées. Et ça va générer des économies. Et nous sommes aussi dans une logique plus générale de rechercher partout où c'est possible la meilleure optimisation de nos ressources. Par exemple, sur le transport aérien. C'est un effort que, de toute façon, nous devons faire et que nous ferons.
Bon, et cette menace américaine de réduction des budgets a-t-elle déjà eu, Johanna, un impact sur le terrain ?
Oui, en République démocratique du Congo, par exemple, il y a quelques semaines, sous la pression des Américains, le Conseil de sécurité a décidé de réduire les effectifs militaires de la MONUSCO de 3600 casques bleus. Les missions au Soudan sont également dans le viseur des États-Unis et pourraient être les prochaines à être réduites.
Johanna Hochstein à Bruxelles, merci.
Et de Bruxelles à Nairobi, Michael. Nairobi, la capitale kényane, qui est aujourd'hui un gigantesque chantier à ciel ouvert.
Et un peu partout dans la ville, hein, vous les voyez en ce moment même en cours de construction d'impressionnants gratte-ciels, Nicolas. Des tours d'une hauteur jusqu'ici jamais vue dans la capitale kényane. 150, 200 mètres et bientôt un peu plus de 300 mètres. Rien n'est trop haut pour cette ville qui politiquement et économiquement se rêve au sommet de l'Afrique. Alors quel est l'impact de ces gratte-ciels sur la population, sur l'urbanisme, dans une capitale, on le sait déjà, totalement chaotique, congestionnée. Bonsoir Bruno Meyerfeld, correspondant de France Inter au Kenya.
Bonsoir.
Alors pour bien comprendre l'ampleur de ces bouleversements, Bruno, vous êtes monté au sommet de l'actuel plus haute tour de Nairobi.
Oui, c'est la tour de la société financière UAP All Mutual. Elle mesure 163 mètres et tout en haut, je retrouve Robert Ndewiga, chargé de communication, qui me décrit la vue plongeante sur la ville.
Ok, là, on est sur le point le plus élevé de Nairobi. D'ici, on peut voir le centre-ville, la circulation et le tohu-bohu incroyable de Nairobi, qui est vraiment une ville très agitée.
Et en fait, là, on voit toute la ville et on voit même au-delà.
Oui, le matin, quand il fait beau, on peut voir les pics enneigés du Mont Kenya et même au loin, un petit bout du Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique, qui est à 200 ou 300 km d'ici.
Donc là, il pleut un petit peu. On va rentrer à l'intérieur pour continuer à discuter.
Cette tour, c'est la reconnaissance pour Nairobi. Ça montre que la ville est bel et bien une capitale financière et le véritable hub de l'Afrique centrale et orientale. Le plus grand aéroport est à Nairobi, tout comme la plupart des grandes sociétés financières. Avec cette tour, les actionnaires de UAP Old Mutual ont voulu montrer qu'ils étaient solidement implantés à Nairobi. On sait que beaucoup d'autres entreprises viendront faire du business ici. À UAP Old Mutual, on est fiers d'être des pionniers.
Et oui, des pionniers, car il y a des dizaines de projets de tours de ce genre à Nairobi. Le chantier le plus important, c'est celui du Pinacle. Deux tours construites par la compagnie pétrolière As Petroleum pour 178 millions d'euros. Avec 300 mètres de haut, ce sera de très loin le plus haut gratte-ciel d'Afrique.
Bon alors, projet, hein, on le comprend, très ambitieux, Bruno. Mais qu'en pensent les habitants eux-mêmes chez vous à Nairobi ?
Eh bien, pas que du bien. Le Pinacle, par exemple, ce sera un immeuble de verre, impersonnel, genre Dubaï. Je vous propose d'écouter l'avis d'Alfred Omenia. Il est architecte et directeur d'Ecobuild Africa.
Ce qui est triste, c'est qu'on ne peut pas dire que ces nouvelles tours soient kenyanes. Si vous les prenez une par une, vous êtes bien incapable de dire si elles ont été construites en France, à Chicago ou à Hong Kong. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de définition pour dire à quoi doit ressembler une tour à Nairobi. Et puis, de toute façon, la plupart de ces tours ne respectent pas la loi. C'est un secteur très corrompu. N'importe qui peut construire n'importe quoi dans cette ville. Et pour dire la vérité, Nairobi ressemble de plus en plus à un bidonville en hauteur.
Bon, les mots sont durs, hein, sont forts, bidonville en hauteur. Mais en réalité, Bruno, qui va concrètement utiliser et habiter ces tours ?
Eh bien, c'est simple, par les riches et même par les très très riches. Le Pinacle, comme ses congénères, accueillera des multinationales, des centres commerciaux de luxe et des hôtels 5 étoiles. Nairobi est pourtant rempli d'embouteillages et de pollution. La moitié de ses habitants vivent dans des bidonvilles. La ville aurait donc bien besoin de tours, mais plutôt de tours aux prix abordables. C'est l'avis de Roger Vandenberg, spécialiste de planification urbaine aux Nations Unies.
Le plus gros problème avec les gratte-ciels, c'est la manière dont ils s'inscrivent dans la ville. Les tours requièrent de grosses infrastructures, génèrent beaucoup de circulation. Augmenter la densité sans avoir amélioré les transports publics ou les aménagements pour piétons ou l'espace public, par exemple, ça ne sert à rien en termes de qualité de vie. Mais tout ça, ça demande de la planification urbaine et une bonne gouvernance. Mais ça ne vient pas tout seul.
Et oui, et les nouveaux gratte-ciels pourraient donc avoir un effet plutôt négatif sur Nairobi, une ville dont la population devrait passer de 4 à 6 millions d'ici à peine 10 ans.
Bruno Meyerfeld, correspondant de France Inter, à Nairobi, donc au Kenya. Merci. Et pour finir, Nicolas, on reste sur le continent africain, direction maintenant Lomé, au Togo, où pas moins de 4 chaînes de télévision consacrent un long reportage au même homme, son nom, Bonaventure Boma. Et sa profession, je vous laisse deviner. Écoutez.
Nous avons une commande jusqu'à 2500 petits pains pour cette unité, sans compter nos commandes habituelles. Rien qu'en petits pains, nous allons tourner autour de 4000 petits pains pour ce soir. Ces pains, à partir de 23h, doivent quitter pour faire une longue distance. Ça va en dehors de Lomé. Alors, nous devons vite faire pour que ça puisse prendre le chemin.
La différence, c'est la façon dont nous pétrissons notre farine. On a un secret de pétrissage. Chaque usine a son secret de fabrication, ce qui fait que nous aussi, nous avons notre secret.
Voilà, et un secret, bien sûr, jalousement gardé. Alors, quel est le métier de Bonaventure Boma ?
Petit pain, farine, boulanger.
Il est boulanger et pas de n'importe quel boulanger. C'est le plus célèbre hein, de Lomé et même de tout le Togo, car c'est lui qui a popularisé la baguette à la française, d'abord dans la capitale, puis dans l'ensemble du pays et même au-delà. En quelques années, Bonaventure Boma est devenu un symbole de réussite. Plus de 5000 baguettes sortent chaque matin de ses fours. Son pain se retrouve sur les meilleures tables de la capitale, hôtels, restaurants, grandes entreprises, ambassades et particuliers aisés. Et son exemple a déjà séduit jusqu'au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso. Bonaventure Boma est aujourd'hui en quelque sorte un ambassadeur du pain et célébré d'ailleurs comme tel en cette semaine de la fête du pain. C'est jusqu'à dimanche. Les plus hautes autorités du Togo l'avaient même littéralement célébré il y a 2 ans à son retour de la foire mondiale des boulangers. C'était à Milan. Et pourquoi ? Et bien tout simplement parce que notre artisan avait ébloui la planète boulangère en dévoilant une baguette à base de farine de sorgho, de manioc et d'igname, céréales largement cultivées dans le nord du Togo, contrairement, vous le savez, au blé rare et beaucoup plus cher. À demain.
À demain, Michael. Yeah